question d'islam par Alain Benchir. Aujourd'hui, nous parlons du calife Al-Mamoun, le 7e calife de la dynastie Abbaside, le fils de Harun al-Rashid, immortalisé par les mille et une nuits. Mais ce n'est pas comme ça que nous allons aborder ce grand calife. Pour parler de lui, j'ai plaisir à accueillir aujourd'hui Vanessa Van Rentergem.
Bonjour.
Bonjour et merci vraiment de venir nous parler du calife Al-Mamoun. Vous êtes historienne, arabisante, vous êtes maîtresse de conférences, c'est la première fois que je féminise le titre, à l'INALCO, à l'Institut National des Langues Orientales et des Civilisations Orientales. Vous êtes historienne, c'est vrai, d'une période un peu plus postérieure à la période où a vécu Al-Mamoun. Il était calife de 813 à 833. Et à ma connaissance, mais c'est vous qui allez nous dire tout cela, il est né le jour de l'intronisation de son propre père comme calife, de
l'année,
son investiture,
en tout cas,
l'année
peut-être.
Au moins. La légende veut que c'était le jour, mais vous êtes prudente comme toutes les historiennes et comme tous les historiens. Donc en moins l'année 786. Qu'est-ce qu'on sait en gros du contexte politique, social des Abbassides à ce moment-là?
Alors Al-Mamoun est en effet le fils du grand calife de la fin du 8e siècle, Harun al-Rashid, qui est, disons, l'un des derniers califes à régner sur un empire relativement uni, qui s'étend de la Libye actuelle jusqu'à l'Asie centrale actuelle, donc c'est un territoire assez considérable.
Territoire qu'on appelait à ce moment-là, pardon, un empire monde.
Oui, tout à fait. Un empire tout à fait, on va dire, cosmopolite et peuplé de populations assez variées qui n'étaient d'ailleurs pas du tout toutes musulmanes. Hein. Les non-musulmans étaient très nombreux également. Et Harun al-Rashid est donc ce calife dont les biographes ont retenu son rôle à la fois religieux et politique comme chef d'empire, mais aussi comme prenant la tête du pèlerinage à la Mecque une année sur deux, pendant qu'une année sur deux, il menait des expéditions contre l'empire byzantin voisin, c'est-à-dire le grand ennemi de l'empire islamique de l'époque.
À ce sujet, ses relations, ses ambassades avec Charlemagne relèvent de ce qu'on a surfait ou il y a une bonne base de vérité historique?
Alors la vérité historique, c'est qu'il y a une diplomatie califale extrêmement active à l'époque abbasside. On a par exemple des traces dans les annales chinoises d'ambassades diplomatiques avec les empereurs chinois, donc avec les grands souverains de l'Occident chrétien également. Après, sur les détails de l'ambassade, les cadeaux échangés, etc., il est possible que tout cela ait été un petit peu romancé, on va dire, par la suite.
Mais... Et embelli, il y a l'histoire de l'astrolabe, de l'éléphant ou des éléphants, de la girafe ou des girafes. On ne sait pas si c'est au singulier ou au pluriel. Bon, ça c'est le père, donc c'est Harun al-Rashid. Il va avoir d'abord son fils, qui sera, parce qu'on leur donne des surnoms, les califes, il s'appelle Abou al-Abbas Abdallah.
Oui, les califes, lorsqu'ils arrivent sur le trône, prennent un nom de règne. Il s'appelle, par exemple, Al-Mansour, le victorieux, ou bien Harun al-Rashid, le bien guidé. Al-Ma'moun, lui, sera celui qui est digne de confiance, à qui l'on peut faire confiance. Et il prendra par la force le pouvoir à son frère, Al-Amin, qui est celui qui croit, celui qui fait confiance.
Oui, Al-Ma'moun étant celui qui est digne de confiance, comme vous dites si bien, et celui auprès duquel les dépôts ne se perdent pas.
Aussi. Absolument.
Sa mère, donc la mère d'Al-Mamoun, la femme de Harun al-Rashid, n'est pas de souche, le mot est désormais utilisé de nos jours, arabe.
Alors les califes à l'époque, comme d'ailleurs de très nombreux dignitaires ou notables musulmans, avaient plusieurs épouses et concubines. Harun al-Rashid ne fait pas exception à la règle, il a des épouses légitimes de souche arabe. notamment Zubaïda, qui sera la mère de son fils lui ayant succédé, El Amin, qui est donc le frère d'El Ma'moun. Quant à El Ma'moun, il n'est que le fils d'une humble concubine esclave, on va dire, Marajil, qui est d'extraction persane, iranienne. Ce qui jouera un rôle plus tard dans les soutiens que El Ma'moun va tenter de rassembler autour de lui. On jouera sur la fibre ethnique en le présentant comme le fils de la persane pour rallier un soutien iranien autour de lui.
Et pourquoi pas un digne héritier aussi de la filiation sassanide par sa mère.
Oui, alors ça c'est ce que ses ennemis disaient, qu'il voulait revivifier l'empire sassanide à travers sa personne.
Alors Haroun al-Rachid voulait régler sa succession de son vivant. Il emmène ses deux fils à la Kaaba, le lieu le plus sacré des musulmans, pour leur demander de prêter serment.
Oui, alors ça c'est une tradition depuis les premières dynasties califales, c'est-à-dire la dynastie des Omeyyades de Damas au 7e siècle, que le calife désigne de son vivant la personne de la famille abbasside, l'homme qui lui succédera. Ça peut être un fils, ça peut être un frère, ça peut être un neveu, un oncle, pourquoi pas. Et donc Haroun al-Rachid ne fait pas exception à la règle. Il emmène effectivement ses deux fils pour les inscrire sur une sorte de testament, disant qu'à sa mort, lui succédera d'abord El Amin, qui, paraît-il, était un peu plus jeune, peut-être de quelques mois, mais qui était le fils de son épouse légitime abbasside.
Et favorite.
Et favorite. Et que, à la mort d'El Amin, lui succéderait El Ma'moun, ce deuxième fils. Enfin, il n'en avait pas que deux. Hein. Il y en a un troisième qui deviendra d'ailleurs calife à la mort d'El Ma'moun.
Ils étaient prêts, tous les deux, à respecter ce pacte.
Tout le problème de l'histoire du calife El Ma'moun, c'est qu'on va voir que c'est un règne très, disons, controversé, avec des histoires de prise de pouvoir, d'assassinat. Donc ça a donné lieu à une historiographie assez contrastée aussi. On a des récits qui sont en faveur d'El Ma'moun, d'autres qui lui sont défavorables. Donc il est parfois un petit peu difficile de savoir surtout quelle était la psychologie des acteurs de l'époque. On arrive à peu près à reconstituer ce qu'ils faisaient, mais à savoir quelles étaient leurs motivations, et c'est toujours un petit peu plus compliqué. En tout cas, il semble qu'à la mort de Haroun al-Rachid en 809, l'empire ait été plus ou moins de fait partagé entre ses deux fils. El Amin est le calife officiel, il règne à partir de Bagdad, qui est la capitale de l'empire abbasside. Quant à El Ma'moun, il prend la direction des provinces orientales, des provinces iraniennes, et il règne gouverne depuis une ville qui est très orientale, la ville de Merv, qui est aujourd'hui au Turkménistan. Et il fait comme s'il était un souverain local régnant pour son propre compte. Au bout de quelques années, la situation se tend entre les deux frères, et El Ma'moun, ayant rassemblé un soutien militaire assez conséquent, marche vers Bagdad pour réclamer le califat, en déclarant que son frère n'est pas, désigné pour régner.
Parce qu'il l'aurait en gros destitué ou lui aurait refusé je ne sais plus quelle demande. El Ma'moun ayant pris ombrage du fait que son frère se comportait sinon en vice-calife, au moins en gouverneur qui aurait pris son autonomie de fait.
Tout à fait, ce qui d'ailleurs se fera de plus en plus dans l'empire abbasside. Le 9e puis le 10e siècle vont voir se multiplier des petits souverains locaux qui sont parfois d'anciens gouverneurs qui prennent et conservent le pouvoir pour eux-mêmes. Alors en ce qui concerne El Ma'moun, il y a aussi une chose supplémentaire, c'est que visiblement c'est une personne qui avait développé une théorie du pouvoir un peu particulière, c'est-à-dire que non seulement il souhaitait obtenir le califat pour lui tout entier, mais il avait développé l'idée, la doctrine, si vous voulez, qu'en tant que calife, il serait comme un imam, comme un personnage investi, disons, d'une guidance de droit divin par rapport à l'ensemble de la communauté des musulmans. Donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu différent par rapport à d'autres califes abbassides qui ont pu le précéder et qui peuvent expliquer aussi le fait qu'il ait décidé de s'opposer à son frère pour obtenir le titre califal.
De 809 à 813, la durée où les frictions, peut-être que le mot friction est un doux euphémisme, entre les deux frères, ont fait en sorte de montrer qu'Al-Amin paraissait comme un calife plutôt velléitaire, un peu faible, ou un calife à poigne.
Alors là encore, c'est un petit peu difficile de distinguer. On travaille, ce sont des périodes anciennes pour lesquelles on travaille avec des sources qui souvent ont été écrites un siècle, deux siècles, voire beaucoup plus après les faits. Et donc, elles ont pu être retravaillées par toutes sortes de filtres idéologiques, de prises de position. El-Ma'moun sera le gagnant dans l'histoire, puisqu'il détrône son frère et qu'il prend le pouvoir à sa place. Donc, bien évidemment, l'image du vaincu est souvent moins favorable que celle du vainqueur. Oui, certains biographes ont présenté Al-Amin comme un calife à la vie dissolue, perdu dans les plaisirs et la boisson, s'intéressant plus à la chasse qu'à l'exercice du pouvoir. Mais c'est quelque chose de relativement classique pour, disons, discréditer un adversaire politique.
On dit qu'Al-Ma'moun n'a pas voulu l'assassinat ou l'exécution, en tout cas, de son frère, et que ça a été fait à son insu, par son général, en quelque sorte.
Alors là encore, les biographies postérieures sont assez contrastées. Effectivement, alors une chose est sûre, c'est que El-Ma'moun n'est pas présent lorsque son frère El-Amin se rend. Alors il faut un petit peu repréciser le contexte. Nous sommes à Bagdad dans les années 812-813. Les armées d'El-Ma'moun ont marché contre la ville ronde de Bagdad, qui est une ville très fortement fortifiée pour la défendre avec un grand système extrêmement imposant, de doubles murs, de tours,
oui,
de fossés,
etc. Oui, elle était voulue
etc.
ainsi par Al-Mansour.
Tout à fait, par son fondateur. Et les armées d'El-Ma'moun ont réussi à prendre cette ville ronde, en la bombardant notamment avec toutes sortes de catapultes. Le calife El-Amin se rend avec sa famille. Il traverse, nous dit-on, le Tigre sur une barque pour pouvoir se rendre au général d'El-Ma'moun. Et dès qu'il débarque, il est à peine identifié comme étant le calife El-Amin. Il est décapité. Alors, Al-Ma'moun n'est pas présent, ce qui permet à une partie de ses biographes de dire par la suite qu'il pleura amèrement en apprenant la mort de son frère, qu'il châtia le responsable qui ne lui avait pas attendu ses ordres pour régler son sort, etc. D'autres sources sont un petit peu moins favorables à El-Ma'moun et disent que c'est lui qui avait commandité la mise à mort du calife régnant.
Oui. Sans vouloir entrer dans des petits détails, la fameuse barque aurait chaviré, Al-Amin à nager jusqu'à la rive, et c'est là où il était attendu, c'est là où on lui avait réglé son sort.
Absolument.
Et sa mère, Zubeïda, demandera plus tard des comptes à Al-Ma'moun, dont il dit qu'il ne le savait pas et qu'il, comme vous le dites si bien, a pleuré cet assassinat. Bon, maintenant, il est au pouvoir, mais il ne s'installe pas à Bagdad.
Alors, il s'installe pas à Bagdad parce que visiblement, il est beaucoup plus à l'aise dans cette région très orientale de l'Empire islamique qui est le Khorasan, qui est cette région, disons, entre l'Iran oriental et le Turkménistan actuel, où il a sa capitale, toujours la ville de Merv, où il est entouré d'un vizir iranien, d'une armée essentiellement locale, c'est-à-dire en grande partie iranienne, et où il se trouve bien pour gouverner son empire. Alors cela dit, ça ne lui porte pas chance parce que les Bagdadiens, les Irakiens, la famille abbasside, c'est-à-dire quand on parle de la famille abbasside, on parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes à l'époque. Hein. C'est une famille très large, c'est un clan, une faction si vous voulez. N'est pas extrêmement satisfaite du fait que le calife ne soit pas présent à Bagdad. Et tout se précipite encore dans les premières années de son règne, lorsque El-Ma'moun, de façon extrêmement surprenante, on va dire, désigne comme son héritier au trône, non pas l'un de ses fils ou un membre de la famille abbasside, mais un membre de la famille rivale, de la famille ennemie, les descendants de Ali, Ali ibn Abi Talib, qui est donc le cousin et gendre du prophète Mohammed, et qui a, disons, contacté contester le pouvoir de la future première dynastie de califes, les califes omeyyades, et qui compte de très nombreux partisans dans l'empire islamique, qui sont les ancêtres de ceux qu'on appelle les chiites aujourd'hui. Les chiites, ce sont à l'époque, disons, les proto-chiites, ce sont les partisans de Ali ibn Abi Talib et de ses descendants, qui disent que seul un descendant de Ali peut justement exercer le pouvoir.
C'est vrai que les chiites ne s'appelaient pas chiites, on parlait d'abord des halides. Alors l'appellation, je le dis sous votre contrôle, est venue après la bataille de Karbala et encore, ça ne s'est imposé que bien plus tard. Donc il a une inclination vers les halides et il entre en pourparlers, en discussion, en concertation avec l'un d'eux, un protagoniste du nom de Ali Reda.
Voilà, alors c'est un protagoniste important puisqu'il est le fils du dernier imam en titre reconnu par les principales branches chiites, on va dire, pour faire simple. Donc ce personnage Ali, c'est en fait Al-Mamoun qui lui donne son titre de Al-Rida, qui veut dire celui qui est accepté, celui qui donne satisfaction, on va dire, à l'ensemble des musulmans.
Celui qui est agréé.
Voilà, tout à fait. Qui le désigne donc comme son successeur futur, au grand mécontentement, on va dire, d'une bonne partie des soutiens de la dynastie abbasside, à commencer par les membres de la famille abbasside eux-mêmes, par les bagdadiens également qui sont... il y a des chiites dans la population bagdadienne, mais il y a aussi des partisans des abbassides. C'est une ville qui a été fondée par les abbassides pour être leur capitale. Et donc cette décision, disons, n'engendre pas un enthousiasme ou une satisfaction dans l'ensemble de ses sujets et de ses soutiens, on va dire.
Il aggrave son cas même en donnant sa fille en épousailles à ce Ali Reda.
Absolument.
Et peut-être même au niveau de la symbolique, il impose en quelque sorte la tenue verte qui était propre aux halides, aux chiites pour faire simple.
Oui, alors à l'époque, on a toute une symbolique des couleurs qui est extrêmement importante. La première dynastie de l'islam, les Omeyyades, avait le blanc pour couleur. Lorsque les Abbassides prennent le pouvoir par un coup d'État, ils adoptent le noir. Et effectivement, Al-Ma'moun décide que désormais, les dignitaires abbassides devront porter du vert à la cour et non plus du noir. Et que les drapeaux abbassides ne seront plus noirs, mais verts. Donc, si vous voulez, voilà, c'est un petit peu les moyens de communication et de propagande politique de l'époque. C'est quelque chose d'assez frappant. Ça symbolise son changement de politique en faveur des descendants de la famille Alide.
Mais ça ne se poursuivra pas. Peut-être pas uniquement par la mort de ce jeune Ali Reda, mais peut-être aussi par un choix politique qui a pris une autre modification de trajectoire.
Alors, ce qui se passe en effet, c'est que à l'annonce de cette désignation d'un alide pour succéder à Al-Ma'moun, à Bagdad, il y a un mini coup d'État. Les Abbassides déclarent que Al-Ma'moun n'est plus calife. Ils le déposent. Ils nomment à sa place l'un de ses oncles, qui s'appelle Ibrahim, qui est le fils du grand-père d'Al-Ma'moun, le calife Al-Mahdi. Voilà, donc il y a un petit épisode, enfin, qui dure quand même une bonne année, où ce personnage est reconnu calife par un ensemble de personnes à Bagdad. Et c'est suite à cet événement que Al-Ma'moun rassemble des troupes et marche à nouveau sur Bagdad. Donc là, on est quelques années après le début de son règne. Et c'est une deuxième expédition militaire à Bagdad, suite à laquelle Ibrahim se rend. Al-Ma'moun, dans sa grande magnanimité, l'épargne.
Il lui pardonne.
La petite anecdote de ses biographes dit qu'il demande conseil à son vizir. Il dit « Que dois-je faire avec Ibrahim ?» Et son vizir lui dit « Ô calife, si tu le tues, tu auras des précédents dans l'histoire. En revanche, si tu l'épargnes, tu seras tout à fait unique en ton genre. » Voilà. On est tout à fait dans le style des biographies de l'époque, des petits qui étaient friands de petits récits de ce type-là. En chemin, pendant l'expédition vers Bagdad, avant donc d'avoir repris le pouvoir, si vous voulez, officiellement, Ali Reda meurt. Là encore, dans des circonstances qui ne sont pas entièrement éclaircies, certains disent d'avoir mangé trop de raisins. Bon. D'autres disent que c'est Al-Ma'mun qui le fait empoisonner. Voilà, une fois de plus, il est difficile de démêler le vrai du faux. En tout cas, deux choses sont sûres. Il meurt dans la partie orientale de l'Iran et son tombeau deviendra par la suite un lieu de pèlerinage chiite extrêmement important puisqu'il se trouve dans ce qui est aujourd'hui la ville de Mashhad en Iran et c'est l'un des pèlerinages chiites les plus importants et les plus vivants jusqu'à aujourd'hui.
Après
Karbala et Najaf en Irak, absolument. Et la deuxième chose qui est sûre aussi, c'est que par la suite, le mouvement chiite tiendra Al-Ma'mun pour responsable de cette mort, que ce soit historiquement vrai ou non. Et donc, ça fait d'Al-Ma'mun, si vous voulez, un personnage totalement détesté et abhorré d'une bonne partie des chiites aujourd'hui, pour ceux qui connaissent son histoire.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec l'historienne Vanessa von Rentergem, arabisante, spécialiste de l'islam médiéval. Mais là, nous parlons d'une période un peu plus antérieure et nous parlons davantage du calife Al-Ma'mun, le grand calife Al-Ma'mun, après avoir brossé un tableau du contexte politique et de comment il a pu accéder au pouvoir califal. On va parler maintenant de l'homme amoureux des sciences, grand mécène, celui qui a fait en sorte, pour certains, que la science dite arabe, en contexte islamique, puisse éclore. Vanessa von Rentergem, ceci relève de la légende aussi ou il y a une part de vérité ?
Ah non, non, alors là on n'est pas du tout dans le domaine de la légende, on est dans le domaine de la réalité historique. On a beaucoup de sources qui nous parlent non seulement du calife Al-Ma'mun, mais de son époque, de son entourage, qui en font le portrait d'un calife, en effet, amoureux des sciences et protecteur des savants, mécène des savants. Après, il est vrai également que c'est, disons, la partie de la biographie de ce calife qui a été mise en exergue, on va dire, depuis le 19e siècle, notamment par les réformismes musulmans, qui en ont fait l'image du souverain musulman éclairé, protecteur de la pensée rationnelle et des sciences. Mais ça part tout à fait d'un substrat historique attesté.
Alors, il y a ce que rapporte un certain Ibn Nadim dans son catalogue, c'est comme ça qu'on un index, un catalogue, un fihrist, un sommaire. Il nous parle d'un rêve, le calife Al-Ma'mun aurait ou avait rêvé d'Aristote.
Oui, alors c'est un petit récit encore tout à fait exemplaire de ce qu'on aime dans la littérature arabe médiévale, le rêve du calife, c'est comme ça qu'on l'a appelé par la suite, où Al-Ma'mun, nous dit-on, rêve qu'il est au milieu d'une assemblée de savants, et parmi ces savants, il reconnaît Aristote, le grand philosophe de l'Antiquité grecque, et il demande à Aristote qu'est-ce que le bien.
Parce qu'il a des joues roses et des yeux bleus.
Ah, c'est possible. Et sans doute les cheveux blonds et frisés. En tout cas, il lui demande qu'est-ce que le bien ? Et Aristote lui répond, le bien, c'est ce qui est bon pour l'intellect, pour l'intelligence. Et Al-Ma'mun lui demande à nouveau qu'est-ce que le bien ? Et lui, la deuxième réponse du philosophe est le bien est ce qui est en accord avec la loi religieuse. Mais vous voyez que ça ne vient qu'en deuxième position. Alors c'est effectivement suite à ce rêve, nous dit-on, nous dit notamment Ibn al-Nadim, qui était lui-même un libraire et auteur de livres de bagdadiens, il nous dit que c'est suite à ce rêve que le calife aurait envoyé des hommes aux quatre coins de son royaume et même jusque dans l'Empire byzantin pour en faire ramener des livres, notamment des livres grecs, qui par la suite ont été traduits vers l'arabe sous son règne. Pour, disons, augmenter la connaissance que l'on avait à l'époque de la pensée antique. Alors, que cette anecdote soit réelle ou pas, on ne le saura absolument jamais, sachant juste que à l'époque médiévale, les rêves sont utilisés, les récits de rêves, pour justifier tout type d'événement. Hein. Donc, dès qu'un personnage mène une politique un peu importante, on peut la justifier par un rêve. Donc là, on a un très beau rêve, le rêve du calife et d'Aristote, qui justifie, disons, l'amour du calife pour la pensée rationnelle.
Vanessa van Rentergem, vous avez raison de souligner cela, c'est que la loi religieuse vient en deuxième partie, c'est qu'en réalité aussi en troisième partie, c'est lui dit et après, lui dit après, c'est selon la coutume, et lui dit ensuite, lui dit bah après, il y a pas d'après. C'est-à-dire qu'on a une gradation qui va d'abord selon l'intelligence, l'intellect, la raison, puis la loi religieuse, et puis la coutume, et on arrête là. Et donc ce rêve serait un rêve fondateur qui justifie l'engouement d'Al-Mamoun pour la sagesse des anciens. Et à ce moment-là, les anciens ne sont pas le salaf, ce sont plutôt la sagesse des Grecs.
Tout à fait. Alors, il faut bien voir qu'on est à l'époque dans cet empire abbasside, surtout à Bagdad, conçu un peu comme ville-monde où se croisent des savants venus de différentes régions de l'empire musulman. On est dans un monde où différents savoirs antiques sont encore vivaces. Alors bien sûr, on pense tout de suite, puisque nous parlons vu d'Occident, au savoir grec antique, qui était encore connu et pratiqué, notamment par les communautés chrétiennes d'Irak, de Mésopotamie. Il y avait dans le nord de la Mésopotamie des monastères où l'on étudiait le grec, où l'on étudiait les manuscrits anciens. Alors, c'était pas forcément les philosophes, ça pouvait être les philosophes, c'était aussi des textes de théologie ou autres, mais aussi des textes de médecine, mais aussi des textes de science. Une tradition scientifique à laquelle on pense un peu moins, mais qui était extrêmement présente et extrêmement importante à l'époque, c'est la tradition qu'on peut appeler indo-persane, une tradition plus orientale, donc, basée sur toute une série de textes venus de l'Inde ancienne, de textes à l'origine en sanskrit, qui est donc la langue de l'Inde ancienne, langue qu'on ne connaissait plus à Bagdad, hein, personne n'était capable de lire le sanskrit ou de le traduire, mais dont l'héritage avait été préservé en Iran, par des textes en Pelvi, qui est l'iranien ancien, le persan ancien, si vous voulez. Et à Bagdad, il y avait des savants capables de lire le Pelvi, de le traduire ensuite vers l'arabe. Et donc, on a tout aussi une tradition indo-persane, notamment en matière d'astronomie, mais aussi éventuellement de médecine, de mathématiques, qui a pu être transmise et transformée à Bagdad sous le règne du calife Al-Ma'moun, de ses prédécesseurs et de ses successeurs également, d'ailleurs.
Et avec cette volonté de réactiver ou ranimer, mais à Bagdad, l'académie de Gundishapur.
Alors l'académie de Gundishapur, c'est en fait un cercle de médecine, d'études de la médecine. Gundishapur est en Iran actuel. Oui, c'est l'un des exemples de petites écoles. Alors académie est peut-être un mot un peu trop institutionnel. Il s'agissait sans doute plutôt de cercles de médecins qui se réunissaient pour discuter de leur discipline et la faire progresser. Voilà, donc ça, on est dans l'Orient de l'Empire. Si on pense à l'Occident de l'Empire musulmans de l'époque. On pense bien sûr à toute la tradition alexandrine, donc à toute l'école d'Alexandrie en philosophie, en médecine, en sciences qu'on dirait exactes aujourd'hui, mathématiques, etc., qui est une tradition qui, disons que l'école d'Alexandrie n'était plus extrêmement active à l'époque de l'expansion l'expansion de l'islam, déjà avant cette expansion, mais la tradition des textes qui ont été produits, étudiés, discutés, enseignés à Alexandrie, on la retrouve dans tout le bassin méditerranéen et jusque dans des régions plus orientales, dans l'Empire abbasside.
Et donc la Translatio Studiorum aurait connu un apogée ou un sérieux coup dynamique sous Al-Mamoun.
Alors Al-Mamoun, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez ses biographies, on vous dit qu'enfant, il n'a pas été élevé à la cour abbasside, mais son père Haroun al-Rachid l'avait confié à une famille qui lui était proche, qui est la famille des vizirs barmakides. Les Banu Barmak, qui étaient d'origine iranienne, qui étaient iraniens, et qui ont joué un rôle politique important à la cour de Haroun al-Rachid, le prédécesseur et père d'Al-Ma'moun.
Jusqu'à leur disgrâce.
Jusqu'à leur disgrâce, bien entendu, effectivement. Mais en tout cas, à l'époque où ils étaient encore en grâce auprès du calife, c'est donc eux qui ont été chargés de l'éducation du futur Al-Ma'moun, qui s'appelait à cette époque-là Abdallah. Et on nous dit que ces vizirs étaient aussi des lettrés iraniens qui rassemblaient les savants autour d'eux pour des cercles d'études. Alors le cercle d'études, c'est vraiment la forme principale de transmission et même d'élaboration du savoir à l'époque. C'est-à-dire que des savants se réunissent, alors soit un maître réunit ses disciples pour leur enseigner sa discipline, soit ce sont des savants, disons, de niveau scientifique égal, qui se rassemblent pour discuter, pour débattre. Ça peut être dans différentes disciplines, ça peut se passer aussi bien en médecine ou en mathématiques que en sciences religieuses, etc. Et on nous dit donc que le jeune futur El Ma'moun a été élevé dans cette ambiance de débat, notamment de débat théologique, puisque parmi les savants qui étaient rassemblés auprès des Barmakides, il y avait des spécialistes de Kalam, ces discussions de théologie rationnelle qui étaient très vivaces à l'époque.
Le Kalam étant théologiquement parole, et on pense que c'est l'équivalent de la théologie en contexte islamique. On dira peut-être quelques mots tout à l'heure sur le parti pris pour les rationalistes et notamment pour l'école mu'tazilite, mais avant d'y arriver, on reconnaît à Al-Ma'moun, de fait, le premier, c'est la fondation d'un observatoire permanent, et le deuxième, peut-être qu'il y en aura comme ça, je ne restreins pas uniquement à deux, en tout cas pas la fondation, mais le fait de donner son essor à la Maison de la Sagesse de Bagdad.
Absolument. Alors, c'est deux points différents. Donc, je vais commencer par l'astronomie. Al-Ma'moun, nous dit-on, s'intéressait à tout type de sciences, y compris ces sciences qu'on appelait les sciences des anciens, qui sont, disons, les sciences dites rationnelles, qui vont de la philosophie à la médecine, en passant par l'astronomie, les mathématiques, la géométrie, etc., etc. Et il était lui-même, d'ailleurs, assez versé dans ces sciences. Il comprenait assez bien un certain nombre de théories, y compris scientifiques et mathématiques. On en verra des exemples tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne l'astronomie, c'est effectivement une science qui intéressait beaucoup Al-Ma'moun. Les savants arabes de l'époque avaient comme substrat les œuvres de Ptolémée, qui est un savant d'expression grecque du milieu de l'Antiquité, et qui avait été traduit en arabe, notamment ces tables astronomiques. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, on ne se contente pas de traduire Ptolémée, éventuellement de le corriger un peu, mais on décide de confronter ce que dit Ptolémée à l'observation, l'observation astronomique. Et Al-Ma'moun, donc, commandite, c'est-à-dire qu'il finance, alors non pas la construction d'un observatoire, ce qui voudrait dire des bâtiments en dur, etc., mais il commandite les premiers programmes d'observation continue de l'histoire de l'astronomie. Donc, il demande à des astronomes de surveiller le ciel avec leurs instruments. Certains, à Damas, sur le mont Kassioun, ce qui leur permet d'être un peu surélevés, d'autres dans les environs de Bagdad, qui est une région beaucoup plus plane. Et donc, ces programmes d'observation permettent de confronter leurs résultats à ce que dit Ptolémée et de corriger, de revoir entièrement cet héritage grec antique. Donc, quand on parle voilà de cet héritage des sciences venues de l'Antiquité, il faut bien voir qu'on ne se contente pas de traduire des œuvres. On reviendra sans doute tout à l'heure sur le mouvement des traductions, mais on les absorbe, on les incorpore à la pensée arabe et à des théories scientifiques qui sont en cours de formation, et on n'hésite pas à les corriger, à dire Ptolémée s'est trompé, telle planète n'a pas telle trajectoire mais telle autre, etc.
Et l'anecdote veut que, n'ayant pas compris ce que veut dire le mot stade, il demande à aux traducteurs de le lui expliquer, et il a voulu, ou il a ordonné en tout cas, qu'on vérifie l'expérience d'Ératosthène à propos du méridien de la Terre. C'est qu'on pensait à ce moment-là qu'elle serait, on n'était pas tout à fait convaincu de sa rotondité, comme rond totalement, mais comme une calotte baignant dans un océan.
Alors, en effet, il y a toute l'histoire de la mesure du degré terrestre où, ayant traduit la géographie de Ptolémée, si je ne me trompe pas, les traducteurs ne savaient pas quelle valeur donner à la mesure stade, Ptolémée disant que la Terre était ronde et qu'elle faisait 180 000 stades de circonférence. Le calife décide donc de commanditer là encore un programme d'expérimentation, et il envoie donc des savants tenter de mesurer à nouveau le degré terrestre, mesure qui se fait aux environs de la ville de Sinjar dans la plaine irakienne au nord de Bagdad. Pourquoi ? Parce que c'est un endroit très plat.
Proche de Mossoul.
Oui. Tout à fait, et où donc les astronomes du calife prennent un point de repère, et puis l'un part vers le nord, l'autre part vers le sud. En se repérant aux étoiles, ils arrivent à calculer à peu près une minute de degré terrestre. Ils obtiennent une mesure qu'ils multiplient par le nombre qu'il faut pour obtenir la circonférence terrestre, et ils arrivent. Alors là, on a à nouveau un problème semblable à celui de la question du stade de Ptolémée, à savoir qu'on nous donne une mesure dans une sorte de mille dont on ne connaît pas exactement la valeur. Mais si on prend les valeurs les plus probables, on arrive à une mesure de la circonférence terrestre autour de 32 000 km, ce qui n'est pas si éloigné des 40 000 réels, disons.
Il y aura quelques progrès par la suite et on se rapprochera effectivement de ces 40 000. Mais on n'est plus du temps de Al-Mamoun. Quels sont les traducteurs ? On va parler d'eux dès maintenant.
Alors, on a effectivement parlé des questions des traductions. Al-Ma'mun, nous dit-on, continue l'œuvre de son père Harun al-Rachid, qui était de rassembler des ouvrages dans une bibliothèque qui est cette fameuse maison de la sagesse que vous avez mentionnée tout à l'heure, le Beit al-Hikma en arabe, qui est donc une sorte de bibliothèque personnelle du calife, qui d'ailleurs n'a pas été initiée par Harun al-Rachid, mais par les premiers califes abbassides. Selon sans doute une tradition venue de l'Iran sassanide, les souverains sassanides avaient des réserves de livres, notamment de livres d'histoire, de miroirs aux princes, etc., qui les édifiaient, disons, dans leur façon de gouverner. Et les califes abbassides reprendront cette tradition à leur compte en enrichissant cette bibliothèque d'ouvrages venus non seulement des régions orientales de l'Empire, mais aussi d'en dehors de l'Empire, avec des ouvrages en grec. Et on a parlé tout à l'heure de ce fameux rêve du calife qui aurait poussé le calife Al-Ma'mun à aller collecter des ouvrages, notamment grecs, venus des quatre coins du monde connu de l'époque, on va dire. Ces ouvrages, une fois collectés, le calife, et d'ailleurs pas seulement le calife, mais aussi son entourage, ses hauts fonctionnaires, etc., commanditent des traductions de ces ouvrages vers l'arabe, ou bien parfois vers une langue qui était aussi pratiquée en Irak à l'époque, qui est le syriaque, qui est une langue cousine de l'arabe, on va dire, dérivée de l'araméen, et qui était pratiquée et connue, notamment des chrétiens nestoriens présents en Irak. Donc on a tout un mouvement de traduction d'ouvrages, notamment grecs, vers le syriaque et ou vers l'arabe, qui est un mouvement tout à fait colossal, puisque il conduit à traduire plus de 8000 ouvrages différents. Et nous dit-on, il conduit à traduire en fait tout le patrimoine grec ou hellénistique que le calife avait pu rassembler et qui s'intéressait à toutes les disciplines en dehors de la littérature. On ne traduit pas Homère, par exemple, hein, mais on traduit Ptolémée, on traduit Galien, on traduit Socrate et Aristote. Voilà, on traduit tout un patrimoine écrit en grec. Et quand je parle de traduction, il faut bien voir que non seulement on traduit, mais on traduit, on corrige les traductions, on retraduit. Et donc c'est un mouvement extrêmement vivace. Et puis non seulement on traduit, mais également, selon la tradition antique et médiévale, on commente. Hein, donc on traduit, mais dans la marge, on ajoute un commentaire qui est en fait une nouvelle œuvre qui fait qu'il est un peu réducteur de parler simplement d'un mouvement de traduction. C'est véritablement un mouvement de production scientifique à partir d'un patrimoine ancien.
De nos jours, on aurait parlé de lien hypertexte. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec l'historienne Vanessa Van Rentergem, maîtresse de conférence à l'INALCO, et nous parlons du calife Al-Mamoun, ce grand calife de la dynastie abbasside, amoureux des sciences et du savoir. Vous avez parlé des traductions. J'ai cru comprendre que l'affranchissement des captifs ou des prisonniers se faisait aussi en contrepartie de livres, si ça ne relève pas non plus de la légende, et on payait les traducteurs en poids d'or, équivalent à ce qu'ils ont pu traduire.
Oui, alors il y a effectivement toute une série de petites anecdotes sur la rémunération des traductions, là encore réelles ou romancées, peu importe. Ce qui est important, c'est que le calife et ses dignitaires dépensent une partie de leur fortune personnelle pour obtenir des traductions de textes. Alors, soit directement sur commande, soit des traducteurs pouvaient travailler de façon indépendante et puis venir présenter leur œuvre à un mécène qui la leur achetaient sous forme de récompense, un peu comme faisaient aussi les poètes à l'époque qui écrivaient des élégies pour les califes ou les vizirs et se les faisaient rémunérer très cher par la suite.
Et surtout des panégyriques et des propos trop dithyrambiques.
Oui, ils pouvaient aussi acheter le fait de ne pas divulguer leur satire.
Aussi, c'est vrai aussi, qui était terrible. Pour revenir aux grands personnages ayant fréquenté cette maison de la sagesse, il y a des grands noms. Ben, les plus connus et classiques désormais, c'est, si je les latinise, c'est Algorithmus, Al-Khawarizmi, qui y était. Les fils de Shaker, les Banu Moussa, les trois frères mathématiciens, et puis Le Thébet des Latins, le Thébit, Thabit ibn Qurra, qui était sabéen ou qui se serait islamisé à la fin de sa vie, ça, je ne le sais pas, c'est vous qui allez nous le dire, et d'autres aussi.
Oui, alors la particularité d'El Mamoun, c'est donc qu'il hérite de cette bibliothèque qui est la maison de la sagesse. Il en hérite de son père. Et la nouveauté, c'est qu'il décide de l'ouvrir aux savants pour qu'ils y tiennent ces fameux cercles de discussion savantes qu'on a évoqués tout à l'heure. Et puis pour qu'ils puissent aussi avoir accès aux ouvrages, soit pour les traduire, soit pour travailler sur les traductions ou sur les ouvrages directement. Et donc, dans l'entourage, on va dire, du calife et dans cette maison de la sagesse, qui n'est sans doute pas un bâtiment en soi, mais peut-être une pièce du palais califal dédiée à cette réserve de livres, on a toute une série de personnages tout à fait passionnants qui fréquentent ce lieu et qui sont parmi les fondateurs de la tradition scientifique arabe en plein développement à l'époque. Donc vous avez évoqué quelques très grands noms. Les trois frères Moussa, les Banu Moussa, sont trois fils d'un personnage un peu obscur, mais qui vient de l'Orient musulman,
qui
du Khorasan,
un peu brigand,
un peu coupeur de chemin, bandit de grand chemin, etc. Mais en tout cas, et qui était aussi astronome. Et Al-Ma'moun, à la disparition de ce personnage, prend ses fils sous sa protection, leur fait donner une éducation, notamment scientifique, et par la suite les conduit à Bagdad lorsqu'il s'y réinstalle pour y régner. Et ce sont des personnages qui ont à la fois rempli quelques fonctions politiques, mais qui sont surtout connus comme mécènes des sciences et comme eux-mêmes savants, hein, puisqu'ils ont écrit un ouvrage tout à fait particulier, qui est le Livre des inventions ingénieuses. Un ouvrage qui donne les dessins et les secrets de fabrication d'une centaine d'automates. Alors c'est basé sur une tradition grecque, où on s'intéressait déjà aux machines, aux automates, mais tout à fait développé et enrichi. Et on a toute une série de machines tout à fait extraordinaire, qui fonctionne soit à la vapeur, soit avec des systèmes de balancier, soit avec des poids, de l'huile.
Les clepsydres,
notamment une horloge mécanique animée représentant des animaux, etc., etc. Donc ça, ce sont les Banu Moussa. Les Banu Moussa étaient aussi parmi les envoyés du calife qui allaient chercher des ouvrages et des savants dans les différentes régions de son empire. Et ce sont eux, dit-on, qui auraient découvert le jeune Thabit ibn Qurra, qui était alors un humble changeur d'argent, connaissant donc l'arithmétique, et ayant remarqué ses qualités intellectuelles hors normes, les Banu Moussa ramènent Thabit à Bagdad, où il devient l'un des mathématiciens les plus importants de l'entourage d'Al-Ma'moun. Mais le mathématicien le plus célèbre et pour cause, c'est effectivement ce dénommé El-Khorazmi, qui a donné son nom à nos algorithmes, hein, puisque algorithme est une latinisation de son nom, et qui révolutionne l'algèbre moderne, qui peut même être considéré comme l'un des fondateurs de cette discipline dans plusieurs domaines, notamment en adaptant une tradition mathématique indienne qui était la numération de positions décimales, c'est-à-dire qu'on prend l'habitude de noter les chiffres par des symboles qui sont organisés par unités, dizaines, centaines, etc. Et puis l'autre révolution, c'est l'introduction du zéro dans ce système. Donc c'est un système qui permet de noter les chiffres chacun par un symbole précis. Avant, on écrivait le nom des chiffres en toutes lettres, ou bien on utilisait des lettres un peu comme dans le système des chiffres romains, si vous voulez. Mais ça ne permettait pas toute une série d'opérations de calcul et d'algèbre qui vont désormais devenir possibles grâce à ce type de numération.
Oui, et pour revenir à Thabit ibn Qurra, il y a un cratère lunaire qui porte son nom pour lui rendre hommage. Et on lui reconnaît jusqu'à présent les fameux nombres amiables. Il y a même une série qui est celle de Thabit, qui est 3 fois 2 puissance n moins 1. C'est que ça continue jusqu'à maintenant. Et les Banu Moussa, ces trois frères, Mohamed, Ahmed et Hassan, ont introduit la notion de la science des procédés ingénieux. Parce que la mécanique, ça vient de machination, il y a une ruse derrière, et donc on l'a simplement, en gros, arabisé le sens grec. Pardonnez-moi d'avoir mis mon grain de sel en...
Vous faites bien parce que vous en savez plus que moi,
non,
c'est
non,
bien.
Non, je vous en prie, absolument pas. On finit avec peut-être quelques mots sur cette fois-ci, ce qui sera plus tard connu comme étant une épreuve. Peut-être même les historiens considèrent que c'était une erreur de la part d'Al-Mamoun, ce grand calife, c'est d'avoir érigé quasiment en doctrine d'État la doctrine rationaliste des tout premiers théologiens mu'tazilites. Et j'ai oublié de dire que dans cette maison de la sagesse, il y avait un grand prosateur, lui-même de mu'tazilite, c'était le Al-Jahiz. Et alors, est-ce une erreur de sa part ?
Bon, alors c'est toujours difficile de juger historiquement en termes d'erreur ou non. Les choses ont été faites ou n'ont pas été faites.
Oui, post-eventum, c'est toujours facile de
voilà.
le dire. Oui.
Disons qu'en tout cas, il y a une logique dans cette décision d'Al-Ma'moun qui, effectivement, tout à la fin de sa vie, il est à sa 20e année de règne et il mourra d'ailleurs la même année. Bon, ça, il ne peut pas le savoir. Il décide d'imposer un dogme, c'est-à-dire de demander à tous les savants en sciences religieuses de Bagdad, notamment, de déclarer qu'ils adhèrent à cette doctrine. Ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, de cette théorie du califat développée par Al-Ma'moun, où il n'est pas seulement un calife au sens politique du terme, mais il est le guide spirituel de la communauté, une sorte d'imam un peu proche de la théorie chiite de l'imamat. Et donc, il se réserve le droit d'intervenir dans les questions de doctrine. Et c'est ce qu'il fait, en effet, à la fin de sa vie, de façon très autoritaire, en exigeant que les grandes autorités religieuses de l'époque viennent déclarer publiquement qu'elles adhèrent à la doctrine du Coran créé. Alors qu'est-ce que c'est que cette doctrine ? Il faut bien voir qu'on est à une époque où il y a une effervescence théologique tout à fait passionnante. Hein. Les théologiens, les autorités religieuses de l'époque se passionnent pour différents sujets. Alors par exemple sur la question de la prédestination, l'homme est-il prédestiné une fois pour toutes, son destin a-t-il été écrit par Dieu ou bien est-il responsable de ses actes ? C'est une des questions qu'on débattait à l'époque. Une autre des questions que l'on débattait, c'est la question des attributs de Dieu, puisque le Coran parle de la main de Dieu, de l'œil de Dieu.
Du trône de Dieu.
Voilà. Faut-il en déduire que Dieu a véritablement une main, des yeux, qu'il s'assied sur un siège, etc. Et autour de cette question vient aussi celle de la création ou non du Coran. Alors, la question est de savoir, en fait, si le Coran existe de toute éternité, tel Dieu lui-même, en fait, ou bien si Dieu le crée au moment où il le révèle à son prophète. Hein. Alors, tout le monde était d'accord pour dire que le Coran était la parole de Dieu, mais la question, c'est est-ce qu'elle avait été créée au moment de la révélation ou est-ce qu'elle existait de toute éternité ? Et là, deux courants s'affrontaient. Le courant qu'on appelle souvent le courant traditionnaliste, qui est un courant, disons, plutôt littéraliste, qui était partisan de la doctrine du Coran incréé, donc d'un Coran éternel existant de toute éternité, tel Dieu lui-même, et un courant qu'on va appeler par commodité plus rationaliste, qui, moins littéraliste, pensant qu'il fallait considérer les aspects symboliques des choses, et qui se prononçait en faveur de l'idée que le Coran est créé par Dieu au moment de sa révélation.
Hélas, parce que je vous écoute avec beaucoup d'attention et c'est passionnant ce que vous nous dites, mais nous arrivons au terme de l'émission. Al-Ma'moun mourra en 833 à Tars et vous reviendriez, si vous voulez bien, nous parler cette fois-ci de la suite et du débat créé par le Coran créé ou incréé. Chers amis auditeurs, nous étions avec Vanessa von Rentergem, l'historienne, pour parler du grand calife Al-Ma'moun. C'était question d'islam sur France Culture. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attachée de production est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Jean-Michel Bernot. et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin.
اگر صد گل بیایه بر کنارم از این گل ها نیایه بوی یارم
از این گل ها نیایه بوی یارم
هیچ باری سبز گل یار من و تو تنها مزار هیچ باری ای بلایی جان من و تو تنها مزار هیچ باری ای بلایی جان من و تو تنها مزار